Le 7-9 sur France Inter.
Votre invité Alexandra Ben Saïd est députée du Finistère et secrétaire générale du mouvement En Marche.
Richard Ferrand, bonjour.
Bonjour.
La poignée de main, tout sourire, Macron, Estrosi ce week-end à Marseille, c'est un message pour qui? Plutôt Valls ou plutôt Fillon?
C'est un salut républicain que notre candidat est allé donner à Christian Estrosi, qui est le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui avait eu, si vous vous en souvenez, à diriger le Front républicain face au risque Le Pen sur cette région.
Donc c'est plutôt pour valider l'idée qu'il y a un vote utile au premier tour.
Alors ça, je vous laisse à votre interprétation. L'idée, c'est d'aller faire...
Ah ben, je vous demande la vôtre, justement.
La mienne, c'est un salut républicain à un homme qui, par ailleurs, a fait face au Front National. Voilà.
Chez les Républicains, on explique qu'il y aurait un vote caché, celui des électeurs de droite qui ne veulent pas se faire voter l'alternance et que les sondages ne mesurent pas. Est-ce que c'est une hypothèse qui vous intéresse, Richard Ferrand, et que vous surveillez?
Absolument pas. Moi, je ne crois qu'au vote réel. Le vote caché, ça fait partie de ces fantômes. On a déjà des sondages qui sont illisibles et improbables, qui se sont trompés lors des dernières échéances, qu'il s'agisse de Trump ou du Brexit. Et si en plus on imagine qu'il faut en avoir une lecture subliminale, ça devient quand même très compliqué. Cela demanderait de perdre beaucoup de temps pour finalement peu de choses.
Alors les sondages, ils donnent quand même Emmanuel Macron au premier tour avec Marine Le Pen en tête. Et il y en a un qui veut vraiment se démarquer, c'est François Fillon, qui tape dur en ce moment sur Emmanuel Hollande, sur Hollande bis. Est-ce que ça, c'est un point faible de votre candidat, l'héritier, l'héritage?
Écoutez, je crois que c'est surtout un point faible de Monsieur Fillon que de devoir s'essayer à un rôle d'humoriste qui lui va assez mal, finalement, si vous voulez. Parce que moi, je ne le trouve pas très comique. Donc, à défaut d'avoir des arguments pour promouvoir ce qu'il fait, à défaut de pouvoir retrouver une crédibilité après ce qui lui est arrivé, qui n'a pas fini de se concrétiser parce qu'il est face à ses juges, je vous le rappelle, et que d'autre part, les Françaises et les Français se demandent, au-delà de savoir si ce qu'il a fait est légal, si c'était acceptable, donc je pense qu'ils vont le lui dire très prochainement, il essaye, si vous voulez, de caricaturer les autres, mais assez poussivement, je dois dire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même cette idée aussi dans la tête des électeurs? Emmanuel Macron, qui serait un faux nez de François Hollande, est-ce que vous ne devez pas corriger l'image encore pendant les 3 semaines qui viennent?
Non mais... Nous ne travaillons pas à une image. Nous avons une démarche, depuis le 6 avril 2016, de rassemblement et de refondation de la vie politique française. Donc notre cap est clair, le programme a été présenté, la démarche du candidat est claire de rassembler les progressistes, quelle que soit leur histoire personnelle, antérieure, et nous continuons à marcher notre chemin. Rien d'autre.
Mais est-ce que c'est une continuité ou une rupture par rapport à François Hollande, ce programme?
Écoutez, c'est une alternance franche que nous voulons.
Une rupture, donc?
Une rupture.
Il y a en effet plus de flexibilité pour les entreprises, il y a le contrôle renforcé des chômeurs, il y a la tolérance zéro en matière pénale. Pourquoi ne pas dire plus clairement qu'en effet, ça n'est pas un programme de continuité avec Hollande, et le programme Macron, c'est de la rupture libérale?
Alors c'est de la rupture qui, à mes yeux, n'est pas de la rupture telle que vous la qualifiez, libérale. Mais vous savez, nous...
Il y a aussi le rétrécissement de l'ISF.
Non mais nous le disons. Mais c'est pas ce que tout le monde répète. Donc c'est bien que vous le disiez. Ça donne crédit à ce que nous faisons. Donc en effet, c'est un programme de rupture qui veut à la fois libérer plus et protéger mieux. Car aujourd'hui, on voit bien qu'on a une société qui entreprend moins, qui fabrique moins de richesses parce qu'elle est bloquée en beaucoup de points. Et qu'en même temps, on a un modèle social dont certains nous disent qu'il faut surtout rien changer, qui produit des millions de chômeurs et près de 10 millions de personnes pauvres. Donc on ne peut pas se satisfaire de cette réalité où au fond notre économie ne redémarre pas, mais en revanche la misère perdure. Donc oui, il faut radicalement révolutionner un certain nombre de choses. Vous parliez de rupture, mais songez que par exemple, nous disons nous qu'il faut sortir d'un système d'assurance chômage pour aller vers une allocation universelle, pour qu'il y ait un filet de sécurité pour toutes celles et tous ceux qui essayent quelque chose, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient profession libérale, et de faire en sorte au fond que chacun se sente plus libre dans une société plus fluide pour agir, pour prendre des initiatives, tout en sachant que le filet de sécurité sera offert à toutes et à tous.
Je reprends ce que disait Dominique Seux dans sa chronique. Emmanuel Macron, il ne croit pas aux corps intermédiaires pour défendre l'intérêt général, il ne croit pas aux syndicats?
Non, ça, je crois que c'est enfin, c'est pas quelque chose que nous ressentons ainsi, nous. Nous disons qu'au contraire, quand nous disons qu'il faut décentraliser ou déconcentrer les négociations au sein de l'entreprise ou des branches, c'est que nous pensons que les organisations syndicales sont à leur bonne place, là où justement se décident les conditions de travail, les négociations
donc
salariales,
le terrain
etc.
Et pas le paritarisme.
Donc nous avons besoin de plus de syndicalisme pour qu'il y ait plus de dialogue social. Mais ce que nous disons, c'est que lorsqu'il y a des missions d'intérêt général, à ce moment-là, en effet, le paritarisme, on peut s'interroger. Songez par exemple à l'UNEDIC. 30 milliards de dettes, l'État est garant, et il est géré par d'autres. À un moment donné, il faut que ce soit celui qui se porte garant des dettes qui ait son mot à dire.
Là, vous avez vu, il y a eu un accord des syndicats sur l'UNEDIC. Ça ne vous fait pas changer d'avis sur leur capacité à gérer l'assurance chômage ?
Je pense que c'est plutôt les intentions que nous portons qui a stimulé leur capacité à s'entendre.
Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche, une des grandes questions, il y a donc cette idée de l'héritage, et puis il y a la question de quelle majorité pour Emmanuel Macron s'il devient président. Est-ce que ça, c'est aussi une de vos missions pour les 3 prochaines semaines, rassurer, il y aura une majorité?
Vous savez, je ne fais que ça, rassurer, depuis des mois et des mois, puisque nous sautons...
Mais apparemment, ça ne marche pas, justement, si je vous pose encore la question ce matin.
Comment ça, ça ne marche pas? Nous verrons bien le 23 avril. Mais ce que je vous dis, c'est que il nous faut sauter les unes après les autres. Quand nous avons créé En Marche, voici un an quasiment, on nous a expliqué, mais ça ne peut pas exister, votre affaire. Ensuite, on nous a dit, vous n'avez pas de soutien. Maintenant, on nous dit, c'est le trop-plein. Ensuite, on nous dit, vous n'avez pas d'argent. Maintenant, on nous a dit, mais il vient d'où votre argent?
Bon, mais la
ensuite,
majorité,
on nous dit,
il
n'y a pas de programme. Ensuite, on nous dit, il n'y a pas de programme. Maintenant, il y a un programme. Et ensuite, on dit, mais vous n'aurez pas de majorité. Ben si, on en aura une. Si les Françaises et les Français décident d'élire Emmanuel Macron à la présidence de la République pour qu'il mette en œuvre son programme, il va de soi que les Françaises et les Français donneront une majorité à l'Assemblée nationale, comme ils l'ont toujours fait depuis 1981 et avant.
Oui, mais en 1980 et avant, il y avait un candidat qui était issu d'un parti, il y avait un encadrement par le parti, c'est toute la différence.
Ben, la différence, c'est qu'Emmanuel Macron, précisément, n'est pas élu d'un clan, il sera l'élu de la France.
Comment s'assurer que cette majorité, avec ses personnalités aux sensibilités diverses, voteront les textes Emmanuel Macron, et pas seulement ceux qui leur plaisent?
Mais parce que le ciment de toutes ces personnes qui se reconnaissent dans le mouvement, c'est précisément le programme. Et que si ces personnes nous ont rejoints, c'est justement parce qu'elles souhaitent voir ce programme mis en œuvre. Il y a une cohérence dans ce que nous faisons et dans le choix que font les uns et les autres.
Vos candidats auront 5 semaines pour se faire connaître, vous croyez que c'est suffisant ?
Écoutez, ils se font déjà connaître car vous savez, toutes celles et tous ceux qui sont candidats à l'investiture d'En Marche sont en campagne depuis des mois et des mois. Donc ne vous inquiétez pas, ils sont connus sur leur territoire et identifiés comme étant celles et ceux qui ont fait vivre le programme d'Emmanuel Macron et qui maintenant travaillent à le faire partager.
14 000 candidatures sur Internet, il y a de la société civile, il y a des élus. Parmi ces politiques, combien de droite, combien de gauche ?
Écoutez, ça, je n'ai pas fait ce pesage au trébuchet auquel vous m'invitez. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'élus de terrain, mais il y a aussi beaucoup de citoyens. Et c'est un réveil citoyen formidable, si vous voulez. Songez que dans les partis politiques classiques, au fond, tout ça est géré en bureau. Toi, tu iras là, etc. Là, ce sont 14 000 personnes qui ont dit, écoutez, si vous le souhaitez, moi, je suis prêt à m'engager pour porter le programme et ensuite le soutenir à l'Assemblée nationale. C'est un formidable réveil citoyen que beaucoup nous envient après avoir ironisé dans un premier temps, comme chaque fois.
Emmanuel Macron, il est prêt à utiliser le 49-3 si jamais ce que vous décrivez comme quelque chose qui va marcher ne marche pas ?
Écoutez, le 49-3 est un outil constitutionnel dont on aurait tort de se priver, mais c'est pas le but.
Dernière question, Richard Ferrand, encarté au Parti Socialiste depuis vos 18 ans, est-ce que le Parti Socialiste peut disparaître, va disparaître ?
Écoutez, en tout cas, ce que je sais, c'est que la génération qui depuis plus de 20 ans le porte, ferait bien, non pas disparaître, mais de se mettre en retrait. Car au fond, si nous en sommes là, c'est pas à cause des militants, c'est pas à cause des élus de terrain, c'est à cause des dirigeants du parti. Un parti qui a échoué et qui aujourd'hui ne porte plus d'idées nouvelles.
Richard Ferrand, le secrétaire général d'En Marche, merci d'avoir été sur France Inter.